Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bien, nous allons reprendre. Lors de la leçon précédente, j'avais terminé de spécifier les caractéristiques les plus générales des dispositifs figuratifs au moyen desquels les qualités du monde sont données à voir, en m'attardant plus spécifiquement sur deux ontologies, le totémisme et l'analogisme. Dans la première, dans le totémisme, et je rappelle qu'il s'agit de rendre visible l'identité profonde des humains et des non-humains de la classe totémique, et cela peut se faire au moyen de l'image de ceux qui ont engendré cette classe, en soulignant que leur structure physique est identique à celle des existants dont ils sont la source, ou bien au moyen de l'image des traces que les totems ont laissées et qui constituent les effets visibles de leur action à la fois instituante et classificatoire. Dans le cas de l'analogisme, il s'agit, au moyen de divers procédés que j'ai passés en revue rapidement, de rendre présents des réseaux de correspondance entre des éléments qui sont au départ posés comme disparates. Dans une deuxième partie, j'étais revenu sur la question des mécanismes cognitifs qui permettent d'inférer une agence. Je rappelle, puisqu'on m'a posé la question à la sortie, que agence, la traduction que je donne au terme anglais agency, une agence dans une image, en distinguant deux de ces procédures, l'approche internaliste et l'approche externaliste. L'approche internaliste, c'est une image, en somme, peut être vue comme animée par une causalité intentionnelle parce qu'elle paraît porteuse du même type d'intention que les sujets intentionnels qui l'ont créée. La perspective externaliste repose sur l'attribution d'une conduite sociale définie par analogie avec celle d'un être humain. Et j'avais ensuite montré que l'approche internaliste est plus spécifique au régime animique, tandis que l'approche externaliste est plutôt caractéristique du régime analogiste. Avant d'entreprendre, à partir de la semaine prochaine, l'analyse détaillée des caractéristiques de la figuration totémique, je voudrais consacrer la leçon d'aujourd'hui à un problème que rencontre nécessairement toute entreprise visant à un travail comparatif sur les images, d'où que ces images proviennent. On a souvent remarqué que le développement de l'art occidental moderne, depuis sa naissance au XVe siècle, correspondait à une progressive laïcisation des objets figurés et des intentions figuratives, marquées par un abandon de plus en plus net, à mesure que l'on avance dans le temps, des thèmes et des symboles chrétiens, voire un abandon des leçons morales portées par les images. Il en résulte que ce que nous savons des images, nous, occidentaux de la modernité tardive, je précise, ce que nous en savons est très largement tributaire de ce mouvement progressif de sécularisation. Nous n'ignorons évidemment pas complètement les significations les plus communes des images religieuses de notre passé proche ou lointain, mais le fait est que ce savoir, déjà très partiel, n'est l'apanage que d'une petite fraction de la population, je crois, et d'autant que l'immense majorité des images qui nous environnent au quotidien est de nature profane. Or, c'est là une situation tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, non pas que, bien sûr, en d'autres lieux et en d'autres temps, les images aient été exclusivement religieuses, pour autant qu'un tel qualificatif de religieux puisse s'appliquer à quoi que ce soit en dehors, disons, des religions du livre. Mais force est de constater que la majorité des images non modernes ne sont pas profanes au sens où elles ne visent pas au premier chef à procurer un divertissement, à susciter une dilection esthétique, même si tous ces objectifs ne sont pas complètement absents, je veux dire au premier chef, ou même à communiquer une information. Pour l'essentiel, ces images iconiques non modernes figurent des entités, ordinairement invisibles, de diverses sortes, donc les font advenir à l'existence, soit dans un cadre cérémoniel où l'on attend d'elles, de ces entités qu'elles rendent, ou de ces images qu'elles rendent temporairement présentes, ces entités, soit dans des sites spécifiques où leurs actions sont réputées se faire particulièrement sentir et où va donc leur rendre un culte, soit enfin dans les circonstances de la vie quotidienne où elles exercent un type ou un autre d'action, disons, magique. Même pour qui n'est pas versé en ethnologie ou en histoire de l'art, ces choses-là sont connues, ou en tout cas, elles sont obscurément pressenties. Or, la conséquence paradoxale de cette situation, c'est que dans notre monde, que l'on dit en partie désenchanté, ces images que je qualifierais par défaut de non-modernes et qui nous sont accessibles depuis le dernier tiers du XIXe siècle à travers les musées ethnographiques et les musées de civilisation, ces images sont catégorisées, c'est-à-dire qu'elles sont appréciées et jugées en fonction de deux critères, du point de vue de leur conformité au jugement esthétique contemporain et du point de vue de la charge de sacré qu'elles recèlent. J'ai déjà longuement discuté les effets du premier critère dans mon cours il y a 2 ans, et je ne reviendrai donc pas là-dessus. Ce sont les effets du deuxième critère, c'est-à-dire la sacralisation, ce qu'on appelle la sacralisation des images non modernes, sur lesquelles je voudrais me pencher aujourd'hui. En un mot, je voudrais montrer comment la plupart des spectateurs contemporains, y compris d'ailleurs les professionnels, les anthropologues, ou les historiens de l'art, peinent à échapper à un biais religieux ou même chrétien dans l'interprétation des images non modernes, ou à tout le moins ne peuvent se soustraire à une lecture religieuse de ces images qui ne soit pas, disons, colorée par la conception très particulière de la religion que l'Occident moderne a hérité du christianisme et des religions du livre en général, et qui s'est vu renforcé par la manière dont les artistes du XXe siècle ont eux-mêmes utilisé ces images non modernes pour alimenter leur inspiration créatrice. Et une bonne façon d'apprécier ce biais est de se pencher, c'est le détour que j'ai choisi, sur une exposition qui s'est tenue il n'y a pas très longtemps au Centre Pompidou, en l'occurrence, certains d'entre vous l'ont sans doute vu, de mai à août 2008, sous le titre « Les traces du sacré », et qui visait montrer la façon dont les artistes, principalement ceux du XXe siècle, rendaient visible le spirituel dans leur œuvre, depuis le crépuscule des dieux nietzschéens jusqu'au nouveau paradis de la Beat Generation, de l'occultisme à l'homme nouveau, de la quête de l'absolu au sacrifice ou à l'apocalypse, pour ne prendre que quelques-unes des 20 étapes de ce parcours. Or, en regardant les œuvres choisies pour illustrer ce propos, et je l'avais fait à l'invitation des deux commissaires principaux, Jean de Loisy et Angela Lampe. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le célèbre aphorisme de Nietzsche. Je le cite, « Le christianisme a fait boire du poison à Eros. Il n'est pas mort, mais a dégénéré en vice. » Et évidemment, si cet aphorisme était venu en mémoire, ce n'était pas tant le contraste qu'il évoquait entre le dieu de l'amour pulsionnel et le dieu d'amour universel, mais plutôt le traitement général que le christianisme inflige au paganisme. En le recouvrant des habits du sacré, pour s'efforcer de le comprendre, ou le plus souvent pour mieux le discréditer, il l'a rendu impuissant. Et Il est frappant de constater, en effet, à quel point les œuvres qui étaient exposées dans cette exposition, Traces du Sacré, reflétaient une vision chrétienne de la religion, qu'elle soit apocalyptique, blasphématoire ou désenchantée, même, on pourrait dire même peut-être surtout, lorsque elle tentait de s'en séparer en incorporant des œillades à d'autres traditions. Et je m'empresse d'ajouter d'ailleurs qu'une telle impression ne naissait pas d'un biais adopté par les commissaires, lesquels, consciemment ou inconsciemment, auraient privilégié dans leur sélection les échos de la transcendance monothéiste et les efforts inaboutis pour s'en démarquer. Leur coupe histologique du sacré, pourrait-on dire, était, me semble-t-il, assez fidèle à ce que l'art du XXe siècle peut offrir en la matière. Et si l'exposition faisait ressortir un fil directeur, c'est bien que cet art est baigné dans la religion abrahamique ou tente de s'en ébrouer. Alors pour un anthropologue, familier par profession des façons très diverses de donner un sens au monde, il est toujours étonnant de constater l'incapacité dont font preuve la plupart des Occidentaux, y compris les plus savants, à percevoir d'autres variétés d'instauration des êtres sans recourir aux lunettes gauchissantes de la tradition judéo-chrétienne. Même les peintres, qui sont pourtant des accoucheurs d'invisible et qui devraient donc être les moins exposés à une telle déformation, n'échappent pas aux contraintes de leur culture d'origine, pour autant qu'ils soient nés de part et d'autre de l'Atlantique Nord, parfois un peu plus à l'est, parfois un peu plus au sud, comme l'étaient tous les artistes qui avaient été retenus pour cette exposition. Et donc la doublure du visible que ces artistes donnaient à voir me paraissait aussi nettement imprégnée du visage du Dieu incarné que ne l'est le Suaire de Turin. Cette prépondérance du christianisme, c'est d'abord dans ce qui prétend s'en éloigner qu'elle sautait aux yeux. D'abord dans l'étoile réunie sous la rubrique des grands initiés. L'exposition était répartie en une vingtaine de rubriques. L'une des premières s'intitule « Les grands initiés ». Et une rubrique où l'étoile qui était réunie distillait la saveur un peu surannée de ce mysticisme kitsch qui, des groupes rosicruciens du XIXe siècle aux disciples de Gurdjieff, en passant par Allan Kardec, Madame Blavatsky, etc., a tenté de retrouver, sous les décombres d'un christianisme devenu trop rationnel et séculier, les conduites parfois bizarres menant à une spiritualité plus authentique. D'où ces costumes druidiques qui sont des gages d'une simplicité retrouvée, ces halos électriques signalant des énergies mystérieuses, ces corps au ton pastel flottant dans un espace onirique. Toutes ces tentatives qui étaient très clairement, si vous avez vu cette exposition, vous en souviendrez, présentées, toutes ces tentatives des rejetons rebelles d'un monde conservateur et corseté de religion pour tenter d'échapper au déterminisme du milieu et de l'éducation en franchissant des seuils libérateurs. Mais on ne se soustrait pas facilement à ce genre de gang. Et gang étant pris au sens français et non au sens anglais. L'on s'y glisse souvent, à nouveau, une fois la maturité venue. En témoigne le poète dada Hugo Ball, qui récite, là il est présenté dans une photo très classique, il est déguisé en écrevisse, ou en homard, je ne me souviens plus. Enfin, un crustacé, en tout cas. C'est une photo très célèbre. Il est au cabaret Voltaire à Zurich. Et il déclame son poème phonique Caravane. Et c'est-à-dire ça, ça s'est passé une dizaine d'années avant que, devenu ami de Hermann Hesse, dont il partageait les inclinations mystiques, Hugo Ball ne ressent à nouveau l'appel de la foi austère qui avait baigné son enfance pour passer les dernières années de sa vie dans l'exégèse du christianisme antique. L'invocation de l'archaïque, des archétypes immémoriaux, d'où naissent les symboles, et l'autre voie, plus ténébreuse, pour exhumer sous le sédiment des images et des émotions que la doctrine chrétienne a par trop domestiqué, le substrat des pulsions et des prégnances primitives dont l'expérience du monde alimente nos rêveries. Mais là aussi, le retour à un paganisme imaginaire, combinaison de doctrine des éléments, de communion avec les forces telluriques et de pièges à penser répétitifs, signale sans équivoque ce dont on souhaite se démarquer et qui acquiert dès lors tout son relief. Le salut et la faute, la transcendance du divin, la marginalisation de la nature. Donc le recours à l'imagerie de l'Antiquité devient alors inévitable. Dionysos et le Minotaure, la violence et le désir, la mort, la petite et la grande, mais aussi le sanglant rituel de la tauromachie, où s'éprouve dans la ruse du corps à corps le mystère tremblant d'une vie sublimée par sa fin publique. Alors Picasso et Masson y excellaient. Ça, ce sont deux des œuvres présentées dans l'exposition. On aurait pu y ajouter d'ailleurs des illustrations de belle-mère ou de fautrier pour les livres de bataille, exemplaire mariage de l'érotique et du religieux, chrétien, bien entendu, chrétien encore, pourrait-on dire, puisque sacrilège, et cela malgré les abondantes références anthropologiques au sacrifice aztèque dont bataille se nourrissait. La difficulté à s'extraire de son cadre cosmologique est peut-être la plus patente, là où les artistes tentent le plus grand écart par rapport à leur tradition, à savoir dans les répliques primitivistes d'objets rituels, principalement amérindiens, que la rubrique, autre chapitre de cette exposition, qui s'intitulait « La découverte des autres spiritualités », que cette rubrique regroupait dans un ensemble assez homogène. Et dans cette rubrique, la présence d'Abby Warburg était évoquée en annexe, référence bien sûr obligée à l'une des premières tentatives de prendre au sérieux des images païennes totalement extérieures aux traditions artistiques du monde occidental et des grandes civilisations de l'Extrême-Orient. Mais il faut quand même souligner le fait que pour sérieuse qui ait été l'enquête que Warburg a menée auprès des Hopis en 1896, pour durables que furent les traces que cette découverte de rituels et de figurines magiques ont pu laisser sur lui, Warburg n'était pas anthropologue. Et c'est la Grèce ancienne, des mystères et des transes, mais décapé de son historiographie esthétisante et révélé dans son pathos puissant, c'est cela surtout qu'il voit en filigrane dans les déserts de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Comme le sera plus tard le voyage d'Artaud chez les Tarahumara, le voyage de Breton dans les réserves Pueblo, ou le long séjour de Max Ernst dans l'Arizona, c'est une sorte de fuite mystique que Warburg se livre en embarquant pour les États-Unis, animé par le désir de retrouver un état antérieur de la civilisation où les images auraient encore une force que le christianisme leur a en grande partie fait perdre. Et ces humanités périphériques que Warburg et les surréalistes, bien après Warburg évidemment, découvrent essentiellement au moyen de leurs objets, plus que par une fréquentation au quotidien, existent donc moins à leurs yeux pour elles-mêmes, tels que des ethnologues spécialistes, par exemple, des cultures du sud-ouest des États-Unis avaient tenté de les déchiffrer à la fin du 19e siècle, des gens comme Cushing, comme Fuchs, comme Bandelier, que pour le contrepoint que ces sociétés offraient à la société technicienne désenchantée, d'où provenaient ces esthètes voyageurs. En observant des cérémonies au déroulement énigmatique, en collectant des kachinas ou des masques, on pouvait avoir l'impression que quelque chose de la grâce primitive et mystérieuse qui infusait jadis l'antiquité païenne s'était aussi glissé dans ces objets et dans ces danses, semblant ainsi refermer pour un bref instant la très longue parenthèse de l'art classique. On a ici quelques images de Max Ernst lorsqu'il vivait dans l'Arizona avec sa collection de kachina et également Erika Schlegel et Sophie Tauber-Harp qui sont vêtues de costumes d'inspiration Hopi. Alors, on voit beaucoup de masques ici et il y avait en effet beaucoup de masques dans la section de l'exposition qui était consacrée aux autres spiritualités comme il y en avait beaucoup, on le sait, dans les ateliers d'artistes de la première partie du XXe siècle. Cela dit, il est toujours surprenant pour un anthropologue de voir, en quelque sorte, c'est ce qui se passait dans cette exposition, de voir confirmer que des masques africains, amérindiens ou océaniens aient pu être associés en Europe à la spiritualité. Tant ces objets, on peut avoir, avec cette notion confuse et typiquement occidentale de spiritualité, une notion qui a été forgée pour servir, pour l'essentiel, de contrepoids au matérialisme et qui est d'ailleurs à peu près inintelligible sans ce contrepoids. Il est vrai que dans leur continent d'origine, ces masques ont généralement pour fonction de rendre présents des esprits de non-humains ou d'aïeux. Mais ces esprits sont justement tout sauf spirituels, en ce qu'ils ne renvoient pas à la vie de l'âme, à son élévation ou à son salut, mais aux fonctions pratiques qu'on leur demande de tenir dans la vie sociale. Aussi, le masque n'a-t-il aucune signification intrinsèque en dehors de son activation dans un scénario où il va incorporer une relation avec une personne animale ou bien attester de la présence et de l'action continuée des ancêtres ou incorporer une altérité désirable ou néfaste qu'il s'agit d'amadouer ou de conjurer. Et de fait, les masques ressemblent plus à nos statues de saints ou à nos reliques qu'à des symboles christiques. Ceux qui les ont faits et les utilisent, les créditent d'une agence, d'une causalité intentionnelle qu'il faut savoir mettre en branle par des énoncés et par des mises en scène particulières. Et les esprits qu'ils donnent à voir sont donc des actants d'un collectif qui s'étend bien au-delà des humains, non des ectoplasmes énigmatiques et sublimés. Même en Occident, du reste, ce sens pratique du masque comme support d'identité fut à une époque bien vivace. Faut-il rappeler que le masque de théâtre se dit persona en latin, ce que l'on a tendance à oublier, évidemment, ou à perdre de vue quand on considère les deux termes comme antithétiques, le masque étant censé dissimuler les caractéristiques de la personne. Or, un masque peut représenter l'identité réelle, c'est-à-dire socialement pertinente, d'une personne, parce qu'il révèle ce que cache son visage, lequel, devient alors lui-même un masque de chair impénétrable, dissimulant de façon beaucoup plus efficace une personne intérieure dont on ne sait rien et qu'il faut rendre présent, justement, en exhibant ses attributs grâce au masque. Lorsque, comme c'est le cas en régime animique, donc en Amazonie, en Sibérie, en nord de l'Amérique du Nord, on ne sait jamais vraiment quelles sont les intériorités qui sont incarnées dans un corps d'espèce particulier, puisque les âmes des humains et des non-humains sont mobiles et ne cessent d'adopter des costumes corporels particuliers. Alors, le masque d'un esprit animal, porté par un humain, permet tout à la fois de rendre présent cet esprit parmi les humains, mais aussi de l'humaniser en le conduisant, en le forçant d'une certaine façon, à adopter le point de vue de l'homme qui arbore sa figuration. Et évidemment, une telle chose est rendue possible par les caractéristiques même du masque, à savoir le fait que le masque représente ou présente un visage, une face animale ou humaine. Or, une face a des propriétés tout à fait singulières. Les autres peuvent voir mon visage, tandis que, avant la généralisation des miroirs, c'est-à-dire, il faut le rappeler quand même, pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, il n'était pas possible de le contempler, de contempler mon visage. Je pouvais avoir une idée de ma physionomie qu'au travers du toucher, et dans ce que mon visage évoquait dans le regard et dans le discours d'autrui. Le visage est aussi le siège de la plus grande partie du système perceptif, vision, audition, odorat, perception des saveurs, etc. Et si mon expérience des êtres et des choses s'opère donc pour l'essentiel au moyen de mon visage, je n'appréhende que très imparfaitement cette partie de moi qui me permet de percevoir le monde et que les autres voient comme étant emblématique de mon identité. Autrement dit, mon visage est l'expression visible aux yeux d'autrui de ma propre présence subjective comme un agent perceptif singulier. Un masque, Hopi ou Yupik, figure donc cela, mais pour un non-humain. Comme l'écrit avec justesse Ingold, Tim Ingold, c'est la forme phénoménale de l'autre comme sujet. On voit mal ce que cela aurait à voir avec la spiritualité ou avec une quelconque attitude mystique. Parmi les spiritualités des marges, le chamanisme jouit d'une singulière faveur depuis que Mircea Eliade a voulu voir en lui une religion archaïque. C'est la pire chose qui a pu arriver au chamanisme au cours du XXe siècle. Or, pour autant qu'une abstraction comme le chamanisme existe, ce dont je doute de plus en plus, on doit moins voir en lui une religion qu'une technique de relation avec des intentionnalités non humaines que les individus que l'on qualifie de chamans ont supporté à son plus haut degré d'efficacité. Autrement dit, ces gens-là font cela mieux, plus vite, c'est-à-dire avec des automatismes mieux maîtrisés et avec plus de théâtralité aussi que le commun des mortels, lequel y parvient aussi, dans les rêves par exemple, ou dans des états seconds induits par des psychotropes ou par des techniques corporelles. Donc la capacité de se dédoubler, de multiplier dans une bouche unique des énonciateurs de diverses sortes, de discerner ce qui est d'ordinaire invisible, d'organiser dans son corps une sorte de congrès d'interlocuteurs un peu tumultueux, d'absorber comme un buvard la négativité d'autrui, toutes ces choses que l'on désigne d'ordinaire par le terme imparfait de transe sont en fait des moyens très contrôlés d'interagir avec des êtres puissants, multiformes et habituellement invisibles qu'il faut pouvoir rendre présents et qu'il faut pouvoir apprivoiser. Et les artistes qui avaient été retenus avec beaucoup de perspicacité dans l'exposition « Traces du sacré » pour illustrer ce terme ce thème, et pour illustrer d'ailleurs celui voisin des portes de la perception, avait très bien saisi, de même que les commissaires, avaient très bien saisi cette dimension matérielle de la gestion des intentionnalités cachées à la vue. C'était, par exemple, une photo de Pollock, qui fait évidemment des références explicites dans son travail au chamanisme, qui, dégoûtant, sur ses toiles, dégoûtant au sens propre du terme, sans référence à une réalité visible, c'était Michaud dessinant avec maniaquerie ses arborescences intérieures. C'était aussi Joseph Beuys en dialogue silencieux avec un coyote enveloppé dans son deuxième corps de feutre, comme dans un costume de visite aux esprits, tout à fait réaliste dans sa simplicité. C'était quelques images d'un célèbre film, une performance de Joseph Beuys où il a été transporté aux États-Unis dans une pièce où il a vécu avec des coyotes. Mais quel rapport toutes ces œuvres entretiennent-elles avec le sacré, puisque finalement c'était le titre de l'exposition? Alors il est vrai que sous cette rubrique unitaire règne en réalité un grand flou que n'ont pas vraiment réussi à dissiper les spécialistes des religions, qu'ils soient historiens, sociologues, anthropologues, lorsqu'ils se sont emparés du terme de sacré pour tenter à travers lui de caractériser leur objet. Du reste, il faut bien convenir qu'aucune des définitions classiques de la religion n'est vraiment satisfaisante. Celles qui mettent l'accent sur les contenus en laissent toujours échapper un, ou au contraire, en ajoutent en excès. Par exemple, Mauss, qui était pourtant bien conscient de ce que la religion n'est ni une essence, ni une substance, et qu'elle se laisse seulement percevoir dans des phénomènes religieux historiquement définis, proposait de classer ces phénomènes en représentations, d'un côté, donc les mythes, les croyances, les dogmes, en pratique, les actes, les paroles, en organisation, les églises, les collèges de prêtres, etc., et en système religieux, c'est-à-dire en système de religion particulière ou en groupe de religion représentant des traits communs. Et ce faisant, il était conduit à laisser de côté les propriétés même attribuées ça ou là aux êtres, aux divinités, aux esprits, aux génies, avec lesquels les humains entretiennent des rapports que ces systèmes religieux organisent, propriétés très diverses, qui, dans bien des cas, n'ont pas besoin d'institutions pour advenir et pour prospérer. Mauss, d'une certaine façon, suivait en cela Durkheim, dont l'objectif, vous vous en souvenez, était de déterminer un objet intelligible de la religion, par objet intelligible, il faut entendre un objet raisonnable de la religion, et un mécanisme de son instauration, à savoir le religieux et la société transfigurée, sans avoir à poser la question embarrassante des attributs que l'on a pu conférer au non-humain sacralisé, ni la question tout aussi embarrassante du mode de présence de ces non-humains. Finalement, les mêmes limitations affectent les tentatives de définir la religion en termes d'opposition contrastive, par exemple celle que propose Dumézil entre les sacras, c'est-à-dire ce qui va des hommes vers les dieux, et les signas, ce qui va des dieux vers les hommes et que les hommes tentent d'interpréter, une distinction où l'on décèle sans peine tout l'appareil des oblations, des sacrifices et des interprétations d'indices qui unit dans un même ensemble le dieu des monothéistes et les dieux de la Grèce, de Rome, de la Mésopotamie ou de l'Égypte ancienne. Car ces mécanismes de connexion enchevêtrés sont tout à fait étrangers à ceux, beaucoup plus nombreux finalement qu'on ne le pense, qu'ils l'étaient en tout cas à une époque, qui ne donnent rien à leur divinité ou qui entretiennent avec ces divinités un dialogue sans aucune médiation. Il en va de même, dans son imprécision ou dans sa difficulté à cerner la complexité du phénomène, de la distinction classique entre des dieux qui sont des simples garants de l'ordre du monde, des serviteurs et des mécaniciens d'un cosmos incréé dont les humains doivent entretenir le zèle, et un dieu démiurgique à qui l'on doit le monde lui-même, gardien impitoyable d'un ordre qu'il a instauré et dont le maintien dépend du respect des conditions de l'alliance qu'il impose aux humains. Alors, on range aisément dans l'une ou l'autre de ces catégories, d'une part, les religions du cosmos, du Tao, du Dharma, comme aussi tous ces polythéismes fonctionnels, où des cohortes de divinités spécialisées ont à charge de faire fonctionner tel ou tel secteur du monde, et d'autre part, les monothéismes du pourtour du bassin méditerranéen. Demeurent pourtant à l'écart tous ceux qui n'estiment pas nécessaire que le monde soit ordonné. Et il suffit, dans ce cas-là, que les relations avec ceux visibles ou invisibles qui habitent ce monde soient possibles et peut-être aussi fructueuses. Où demeure à l'écart aussi tous ceux qui jugent que l'ordre jadis instauré est suffisamment pérenne, suffisamment stable pour qu'il n'ait pas besoin ou qu'il ne soit pas utile de lutter en permanence contre son effritement. En Australie, par exemple, où les grandes classifications cosmiques du totémisme n'ont guère besoin d'être consolidées. Bref, il est bien difficile de caractériser de façon non intuitive une essence universelle du religieux ou du sacré, et l'on ne s'étonnera donc guère que les artistes du XXe siècle, témoins et acteurs du désenchantement du monde, aient, à quelques rares exceptions près, donné corps à des élans lumineux en s'appuyant finalement sur ce qui leur était le plus familier, la transcendance et la chute, l'absolu divin et la finitude de l'homme, la désertion des dieux et le blasphème, la solitude des temps nouveaux, la nostalgie de la cité divine. Il existe pourtant une fonction universelle qui ramène le christianisme dans le lot commun des immanences et des paganismes ordinaires, une fonction qu'il partage avec l'art, mais que bien des artistes du XXe siècle semblent avoir délaissé tant il était devenu nécessaire, après les ready-made de Duchamp, de mettre en doute l'évidence de l'iconicité. Et cette fonction, et nous revenons par là au propos principal du cours, c'est la figuration, à savoir l'instauration publique d'une qualité ontologique invisible par un énoncé, par une prophétie, par une image. La religion incorpore, elle rend présente dans des manifestations visibles et tangibles des altérations de l'être, des déclinaisons, disons, du non-soi, des puissances contenant tous leurs actes. Et les populations si diverses que la religion fait advenir dans toutes les régions de la terre et au cœur des cieux qui les bordent ont ceci de particulier que par contraste avec les organismes, avec les montagnes, les éléments du relief, ou par contraste avec les concepts, elles sont toutes en attente d'incarnation. On reconnaît là, évidemment, une topique originale du christianisme. Mais c'est un trait qu'il partage avec les différents paganismes. Seuls diffèrent les propriétés des entités instaurées et donc la manière dont on peut les donner à voir. Peut-être n'est-il pas inutile d'aller y regarder d'un peu plus près. Une excursion rapide autour de la planète laisse entrevoir l'existence d'au moins trois grandes classes d'invisibles instaurables, qui sont parfois mêlées, qui sont le plus souvent distribuées dans des collectifs séparés, et qu'on pourrait appeler les esprits, les divinités, et ce que, pour ma part, j'aime bien appeler les antécédents. Les esprits, bien, ils sont typiques des ontologies animiques. En Amazonie, dans l'ère subarctique, en Sibérie, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, où presque tous les existants, animés ou inanimés, on a déjà eu souvent l'occasion de le voir, sont réputés posséder une intériorité propre calquée sur l'intentionnalité humaine. Tout en se distinguant par leurs caractéristiques physiques et par les actions que ces caractéristiques physiques leur permettent ou leur interdisent d'accomplir. Donc chaque corps, et par corps on peut entendre un ours, un bouleau, un traîneau, parfois une ombre portée, a donc un esprit, mais ce peut être l'esprit d'un autre corps, puisque les esprits vagabondent, je l'ai dit, entre les vêtements corporels, sans compter que l'esprit peut se retrouver temporairement sans corps ou définitivement dans le cas des morts. Alors il se manifeste par des sons, par des traces, par des attouchements, ou bien il demeure visible sous la forme d'une miniature minuscule de son corps normal. Donc les esprits sont plutôt des présences, parfois fugaces, parfois stabilisées, ni parfaitement visibles, ni complètement invisibles, dont l'existence est avérée par les effets de surface qu'ils provoquent, le craquement d'une branche, un souffle chaud, parfois le regard d'un animal. Et leur instauration dans une figure s'opère en permanence dans l'environnement quotidien, chaque corps étant habité par un esprit, mais cette instauration peut être aussi provoquée par la représentation iconique de l'avatar dans lequel s'incarne leur subjectivité originelle. Un masque animal, dont quelques traits humains peuvent indiquer l'intentionnalité, comme on l'a vu dans le cas des masques Yupik, une figurine miniature, on a vu aussi que les Inuits y étaient passés maîtres, ou tout simplement une peinture corporelle. Les divinités, maintenant. Les divinités sont des puissances spécialisées. Elles sont assignées à des unités sociales, à des subdivisions de l'espace et du temps, à des genres de pratiques et de techniques dont chaque sorte est plus particulièrement investie d'une fonction d'intermédiation avec telle ou telle portion ou telle population du cosmos. Par contraste avec les esprits qui peuplent les archipels animiques, les divinités sont l'objet d'un vrai culte, et cela dans des lieux précis. Elles y reçoivent des offrandes, des sacrifices et des prières leur sont adressées à des moments convenus. On attend d'elles qu'elles exaucent en retour les vœux de leurs fidèles dans le domaine d'expertise qui leur est reconnu. Donc leur immanence est en partie contrebalancée par leur inscription dans un site bien précis et parfois dans un objet, une pierre, une montagne, une source, une statue. Par leur affiliation à un segment du collectif d'où sont éventuellement issus des spécialistes liturgiques chargés de les célébrer, et aussi par le champ d'intervention spécialisé qui leur est généralement assigné. Et évidemment, le coup de génie du monothéisme, c'est d'avoir fusionné tous ces particularismes dans un dieu polyvalent, détaché de tout lieu et de toute appartenance segmentaire, un principe de totalisation donc qui rend plus efficace et économe l'intégration des disparités. Et l'incarnation des divinités, leur figuration, revêt d'autant plus d'importance que, bien souvent, l'on attend d'elles des signes de destinée et qu'il faut donc qu'elles puissent les manifester au moyen d'actions physiques. Sans compter que l'adoration et la prière sont plus faciles lorsqu'elles s'adressent à des objets que l'on peut identifier et à qui l'on peut s'identifier. Ainsi qu'on l'a vu lors de la dernière leçon, à la différence de ce qui se passe avec les esprits, dont les images parfois très simples, des masques, des figurines, sont réputées avoir une agence parce que dans certaines circonstances, elles paraissent porteuses du même type d'intention que les sujets qui sont réputés les avoir faites, ou inspirées, ou utilisées. L'autonomie dont on va créditer les images des divinités procède de ce que l'on stipule pour elles, un rôle social conçu par analogie avec celui que peut remplir un humain, de sorte que ces images sont des idoles au sens premier, semblent jouir d'une autonomie d'action. Elles peuvent ainsi servir, aisément pourrais-je dire, de support à un attachement, dévotion, respect, crainte, amour, sans objet dans le cas des esprits. Il n'y a pas de sens à parler de dévotion pour un esprit ou d'attachement à un esprit en registre animique. Et elles peuvent fonctionner aussi, ces images des divinités, comme médiation, comme truchement, comme porte-parole, comme destinataire de sacrifices. Finalement, les antécédents, troisième catégorie d'entités instaurables, sont littéralement, comme le terme l'indique bien, ce à quoi il faut remonter dans le passé pour comprendre et accepter la nature et les conditions de l'ordre présent. Toutefois, et par contraste avec les gestes créatrices que l'on impute parfois aux divinités, les antécédents ne sont que des sources de propriétés circonscrites à des groupes locaux. Ce sont des déterminants morcelés, pourrait-on dire. Et on en trouve finalement deux sortes principales. D'une part, les ancêtres, d'autre part, les totems. Même s'il s'agit, dans les deux cas, d'êtres dont des segments sociaux vont tirer leur identité ontologique, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les ancêtres, au fond, c'est quoi ? Ben, ce sont des humains qui sont situés en génération ascendante, ni vraiment morts, ni vraiment vifs, même s'ils sont officiellement morts, souvent matérialisés dans des hôtels domestiques ou des hôtels lignagés, dont les descendants, proches ou lointains, sont dépendants en toute chose. Disposition personnelle, droit économique, statut légal, prérogatives rituelles. Quant aux totems, en Australie à tout le moins, ce sont des prototypes de qualité abstraite, tant physique que morale, à la forme souvent indéfinissable, d'où sont issues des semences d'individuation à l'origine de l'incorporation des humains et des non-humains dans la classe totémique. Et bien qu'elle soit possible, l'incarnation des antécédents dans des images n'est pas indispensable, puisque, même invisible ou même réduit à l'état de traces, par exemple les ossements des ancêtres, ou les effets de l'action des êtres totémiques sur les paysages, même réduits à l'état de traces, les antécédents continuent à entretenir une relation métonymique avec ceux dont ils déterminent l'existence. Et du reste, ces invisibles sont en réalité très concrets, puisque les qualités ontologiques et les privilèges collectifs qu'ils transmettent sont infusés dans des corps, dans des objets et dans des sites et assurent la continuité au fil des générations entre un point d'origine et ceux que ce point d'origine irrigue. Bref, l'image religieuse, au sens plein, et finalement, dans tous les avatars que l'on vient de passer en revue, dans les icônes domestiques, comme dans les hôtels d'ancêtres en Afrique de l'Ouest, ou dans les masques du Brésil central, cette l'image religieuse, c'est celle qui rend évidente l'identité du prototype et de sa reproduction. Comme le fait remarquer Eric Auerbach dans son commentaire de l'usage du terme « figura » par Lucrèce, dans son ouvrage « Figura », figuration est bien le terme qui désigne ce curieux tour de passe-passe qui est à mi-chemin entre, d'une part, la saisie d'une forme, « forma », laquelle évoque trop l'idée d'un original inaltérable, et d'autre part, la reproduction d'une image, imago, laquelle pointe trop vers la copie amoindrie et en partie dévaluée de cet original. Donc la figuration, c'est ce qui est entre les deux. Et bien qu'il ait eu l'iconographie chrétienne à l'esprit, avec son poids historique d'incarnation, évidemment, Gadamer ne disait pas autre chose lorsqu'il soulignait le caractère exemplaire de l'image religieuse. Je le cite, c'est dans « Wahrheit und Methode ». « En elle, nous pouvons voir sans aucun doute qu'une image n'est pas une copie d'un être copié, mais une communion ontologique avec ce qui est copié. » Et cette fonction d'instauration de l'invisible que la figuration et la religion partagent, c'est finalement peut-être chez des peintres improprement appelés non figuratifs, qu'elle est la plus évidente au XXe siècle, beaucoup plus en tout cas que parmi des artistes traditionnellement associés à des thématiques religieuses comme Barlach ou Rouault ou Beckmann, où finalement ce que l'on retrouve, c'est le sentiment le sentiment tragique qui domine, l'idée d'un abandon des hommes dans une période désespérée. La figuration de ce qui est pressenti comme avènement débarrassé de tout symbolisme, pure incarnation et force agissante, finalement on peut en faire l'expérience avec Rothko, en s'imprégnant lentement de la toile elle-même lentement imprégnée, manière de faire transparaître dans la vibration de la couleur ce qui ne pourra jamais être pleinement représenté. On peut aussi en faire l'expérience avec ta pièce, en voyant surgir à la surface de ces toiles tous ces objets qui éclosent un peu comme des bulles à partir d'une source cachée à la vue. On peut en faire l'expérience avec Soulage, bien sûr, lorsque, immergé dans la simplicité de la lumière noire, on ne sait plus si c'est le tableau qui s'anime par la connivence du spectateur ou le spectateur qui reprend vie par la connivence du tableau. Et alors, en effet, selon la fameuse phrase attribuée à Grégoire de Nice, par lequel Éluard ouvre son anthologie « Les frères voyants », alors la peinture muette parle sur le mur. C'est ça le miracle de la figuration. Je voudrais souligner un dernier point, et le souligner avec force. Des images dépeignant des choses semblables en apparence ne renvoient pas nécessairement aux mêmes propriétés invisibles de la réalité. Et les classer selon leurs seules caractéristiques formelles, le genre, le sujet, le support, la facture, etc., ne révèle rien des circonstances dans lesquelles et pour lesquelles on les a faites, ni des conventions figuratives auxquelles obéissaient leurs producteurs. Et contrairement à ce qu'une abondante production d'ouvrages luxueux peut le laisser croire, par ouvrage luxueux, j'entends ce qu'on appelle en anglais les coffee table books, un paysage, un masque, un portrait, une peinture corporelle n'ont pas de signification universelle et n'exercent pas les mêmes effets selon les lieux et selon les époques. Il n'y a donc aucun sens de faire des livres qui regroupent des images corporelles ou des tatouages, par exemple, comme s'ils exprimaient quelque chose de la nature humaine. Il suffit pour s'en apercevoir de regarder deux à deux des images qui se ressemblent et qui ne s'assemblent pourtant pas. Et je n'en prendrai ici qu'un exemple. C'est l'exemple du paysage comme soit une réplique du cosmos, soit une imitation de la nature. Le paysage de gauche, c'est un paysage que je qualifierais d'analogiste. Et alors, ils ont l'intérêt qu'ils ont été faits à peu près à la même époque, dans des régions très différentes du monde. Le paysage analogiste, c'est le pèlerinage au bâton de Zha Shibiao. Et finalement, qu'est-ce qu'ils montrent ? Ben, la peinture chinoise de la montagne et de l'eau, pour reprendre la définition classique, Shanshui, la peinture de paysage, donc, s'attache à mettre en image, eh bien quoi, une réplique du cosmos à une autre échelle. Autrement dit, le qui, le souffle cosmique, court à travers le paysage, comme il court à travers le corps humain, et le pinceau du peintre le saisit pour s'animer de l'énergie qui donne son dynamisme à l'environnement. Comme le dit Confucius, l'homme de cœur s'enchante de la montagne, l'homme d'esprit jouit de l'eau. Aux deux expressions de la réalité physique correspondent deux dispositions humaines. Dépeindre la montagne et l'eau, c'est figurer l'affinité entre le milieu de vie des humains et leur milieu intérieur, c'est faire entrer, finalement, en résonance, le macrocosme et le microcosme. Si l'on regarde l'image, le tableau sur la droite, le tableau de l'atelier de Paul Bril, il représente aussi de l'eau, de la végétation, les montagnes y sont moins présentes, si ce n'est dans l'arrière-fond, mais évidemment avec des finalités tout à fait différentes. La peinture de paysage européenne, elle naît à la Renaissance, d'un mouvement de laïcisation des objets de l'environnement physique, désormais dépeints pour eux-mêmes et non plus pour leur fonction symbolique dans des images à finalité religieuse ou d'édification. En utilisant la perspective linéaire, le peintre représente des choses ordonnées dans un espace rationnel et telles qu'elles se présentent sous son regard et celui du spectateur, à partir d'une position pleinement extérieure au monde figuré. Donc la nature est mise à distance et acquiert une existence intrinsèque. Elle devient une substance décrite avec minutie et exactitude en elle-même et pour elle-même. Donc dans ces deux figurations, dans ces deux images, même si les objets dépeints paraissent comparables, les intentions figuratives ne le sont pas, pas plus que la manière dont ces deux images ont été reçues à l'époque. Autrement dit, et je crois que c'est une importante leçon à tirer pour notre propos, ce n'est pas sur la base d'une iconologie formelle que des modes de figuration peuvent être mis en évidence, mais en prenant en compte les effets que ceux qui ont créé des images cherchaient à produire sur ceux à qui elles étaient destinées. Et c'est ce que j'examinerai dans le cours de cette année, en m'attachant plus particulièrement aux images caractéristiques de l'ontologie totémiste, d'une part, de l'ontologie naturaliste, d'autre part. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.